One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, exceptionnellement une émission en juillet, enfin même plusieurs, quatre émissions hebdomadaires. Alors on a décidé cette année de se faire un petit débriefing de toute l'année écoulée. Alors je dis déjà bonjour à mes acolytes, Ariane, Ghislain.
Salut. Bonjour Philippe.
Et puis en fait on a demandé, on enregistre à RPH, à Saint-André de Sangonis, et avec nous en studio, on a Pascal et Robert, qu'on est ravis d'accueillir, qui vont passer un petit moment avec nous.
Salut.
Salut les pépés.
tu nous appelles comme tu veux. Voilà, donc débriefing de l'année. Voilà, on a choisi un certain nombre d'émissions dont on avait envie de reparler.
Et oui, regarde-moi Philippe.
Ouais, je te regarde puisque tu as choisi cette première demi-heure. On la consacre à nouveau aux questions de genre qu'on avait un petit peu travaillé en, c'était quoi, c'était en novembre, je me souviens plus.
Ouais, ouais,
en novembre.
Ouais.
C'est ça.
C'est la première émission pour cette saison.
Alors,
en fait,
pourquoi tu as choisi cette émission, Ariane?
Parce que c'est ma préférée, c'est la plus belle, parce qu'il y a ma copine Maria qui parle dedans.
Ah ouais, c'est vrai, Maria, on avait beaucoup aimé ce qu'elle disait. Alors, Maria, remets-nous en situation un petit peu.
Donc
sur quoi elle intervenait?
C'était des sons pris pendant les rencontres féministes en mouvement de l'année passée, donc qui vont se dérouler tout début juillet à nouveau cette année pour la deuxième fois. Donc. Et Maria Candéa, porte-parole de l'association Mixité, intervenait au sein d'un atelier qui s'appelait quelque chose comme Queer et Gender Fokker, l'avenir des luttes féministes, un truc comme ça. Et donc sa charge dans cet atelier, c'était de nous faire Judith Butler pour les nuls. Et elle a fait ça très bien.
Ah ouais, elle a fait ça très bien, ouais. Alors, avec nous en studio, Pascal et Robert, on va repasser un certain nombre de sons et on est très curieux de vous voir réagir un peu sur ce que vous allez écouter ou réécouter peut-être, puisque vous avez suivi un petit peu les émissions de cette saison.
Oui, mais je tiens à dire quand même que vous prenez un grand risque d'avoir Pascal et moi autour du micro. Là, ça va être sans filer.
Ah mais nous, on adore ça, les risques. Hein,
voilà.
Pas de problème.
Pas de problème.
On
bon,
ça.
Alors, on va voir ce qu'on va faire.
Ok, ça marche. On écoute un premier son, Ariane?
Oui, Isabelle, qui nous fait la technique.
Donc, concrètement, le fait de dire on ne naît pas femme, on le devient, veut dire que les individus estampillés de sexe féminin à la naissance peuvent devenir femmes ou non. Elles peuvent cesser de devenir femmes à un moment donné, s'orienter vers un autre devenir. Mais également des individus estampillés de sexe masculin à la naissance peuvent devenir des hommes ou non, ou devenir des femmes. Et le processus est réversible à tout moment de l'existence des individus. Et il y a des études très intéressantes sur les pratiques des drag queens et des drag kings qui rendent visible ce jeu. Mais du coup, il est visible parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, mais il est aussi visible sur soi, enfin, une femme assignée femme à sa naissance, qui met en scène sa féminité toute sa vie, c'est exactement la même chose qu'un drag queen qui met en scène sa féminité à un moment donné, par travestissement. C'est exactement le même travestissement, simplement on est rendu aveugle au travestissement attendu parce qu'il est socialement précisément attendu. Donc l'étude des pratiques drag sont intéressantes parce qu'elle rend visible ce travestissement, mais elle éclaire aussi nos propres pratiques corporelles particulièrement.
Alors, on replace un peu dans le contexte, on l'a fait rapidement tout à l'heure, mais elle explicite un petit peu les théories de Judith Butler, hein, c'est ça ?
Voilà, donc c'était Trouble dans le genre pour les nuls. Donc là, c'était une des choses qu'elle a isolées en petits morceaux pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, en partant de « on ne naît pas femme, on le devient », que il s'agit de faire et que donc la dichotomie de genre qui apparaît évidente et naturelle quand on croise une foule de personnes et qu'on peut dire bah là c'est des gars, là c'est des filles, là c'est un gars, là c'est une fille, c'est pas du tout naturel et c'est complètement lié à du faire, à qui se coupe les cheveux, qui s'épile les sourcils, qui se laisse pousser les ongles, qui met des jupes, qui s'épile, etc. Et que donc ces pratiques quotidiennes sont tellement réitérées, puisque quotidiennes souvent, qu'on les oublie, alors que oui, il y a des gens qui ont les mêmes pratiques ponctuellement et qui les rendent de nouveau visibles, et donc c'était l'exemple des drag kings.
C'est là où les homos, on est super subjectifs, subversifs, pardon, parce que qui se coupe les ongles, qui s'épile, qui va au coiffeur, qui... tu vois,
bah, tu vas au coiffeur, toi.
Oui, moi je vais au coiffeur. Bah ouais, je vais au coiffeur, je connais très intimement mon coiffeur.
Moi je vais chez
Robert,
le coiffeur,
ouais. Ouais,
ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai que dans l'assignation, l'image sociale qui va avec l'assignation à l'un ou l'autre genre, le comportement hétérosexuel fait souvent partie du pack, quoi, de ce qui est attendu en termes de comportements sociaux. Et du coup, à partir du moment où, en effet, tu ne prends pas la totalité du pack, tu commences à détricoter l'hétéronorme, l'hétérosexisme, tout ça, et à t'autoriser aussi éventuellement à sortir des autres conformismes attendus suivant ton genre d'assignation.
J'ai un peu envie d'entendre Pascal et Robert là-dessus. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est
complètement... Moi, j'ai entendu dans cette intervention la différence qu'il peut y avoir entre le mot femme et la féminité. Voilà, c'est ou le peut-être le mot homme et la masculinité.
Oui.
C'est-à-dire que peut-être effectivement on a associé socialement, historiquement, religieusement peut-être deux entités qui sont pas forcément toujours en phase.
Alors, ce qui était expliqué par Maria et ce qui est complètement, reproduit la pensée de Judith Butler, c'est que les groupes sociaux hommes ou femmes ne sont pas plus considérés comme des groupes. C'est un groupe social, c'est une espèce de coalition d'intérêts. De fait, il y a un groupe social constitué, mais c'est lié à une assignation. C'est pas comme il y a les chiens et il y a les chats. C'est pas quelque chose que tu peux réellement renvoyer au biologique à partir du moment où tu as bien amorcé la déconstruction de la partie culturelle, donc qui donne cette
avant. Mais avant d'avoir la partie culturelle, il y a quand même biologiquement un problème chromosomique.
Est-ce que tu connais ton sexe chromosomique, Robert Martin?
Je sais que c'est le 40, la dernière paire qui.
Mais est-ce que tu as vérifié dans ta biologie que ton sexe sur le plan du karyotype est bien le même que ce que tu as au niveau de tes caractères sexuels secondaires?
J'espère que ma femme n'écoute pas cette émission.
Mais, bon, personne ne le sait, c'est ça que je veux
personne
te dire.
Personne ne le sait, bon, on n'a pas d'auditeur, donc je veux bien vérifier mon karyotype. Mais il y a quand même...
Tu l'ignores peut-être, Robert, mais il y a plein de facteurs génétiques, hormonaux, qui viennent vraiment de ta biologie d'origine ou qui sont liés à des pollutions que tu as rencontrées au cours de la gestation ou... Il y a plein de petits éléments qui peuvent faire...
Il y a plein d'anomalies chromosomiques, c'est clair.
Non, mais sans parler de... Ah. Ça peut ne pas être juste une anomalie. C'est-à-dire que tu peux avoir certains récepteurs de la testostérone qui sont bloqués, par exemple, et que les caractères secondaires, et que pendant donc les 3 mois de grossesse ou la différenciation sexuée qui doit apparaître à la naissance doit se faire, ça ne fonctionne pas. Donc sur le plan du karyotype et des hormones émises, tu peux être parfaitement garçon, mais quand tu vas naître, tu n'auras pas un petit kiki et des couilles qui seront plus ou moins descendues. Parce que une partie de ton corps n'a pas reçu l'information. Il y a plein de petits aléas qui peuvent faire que... Et du coup,
c'est la même... XY, ça existe.
Oui, mais il y a des gens qui sont XY et qui sont femmes. Socialement, biologiquement, au niveau hormonal, etc. Enfin,
mais ça, c'est
et on est complètement dans l'ignorance de ça. Ouais. Donc, on n'en avait pas trop parlé.
La remarque de Robert au départ, ce que tu as dit, entre homme et masculinité qui ne sont peut-être pas identifiés systématiquement, c'est un point de départ qui n'est pas forcément mauvais pour la théorie de Butler. Hein.
Oui, ça, mais c'est ce qu'elle dit, c'est que, c'est que toute cette terminologie, elle est liée à quelque chose de conventionnel dans le langage, et qu'en effet, et que dans différents espaces culturels, ça ne recouvre pas forcément la même chose, ce qui est attendu en termes de comportement viril ou masculin, suivant la terminologie que vous voulez. Ça peut être des choses très différentes suivant les lieux ou les temps, et qu'il n'y a rien de naturel là-dedans.
Mais oui, c'est ça, le genre est une construction culturelle, c'est-à-dire qu'on a attribué à une caquette et des couilles, un comportement et une façon d'être, une façon de se donner en spectacle, voilà, et que c'est comme ça qu'on doit être quand on a une caquette et des couilles. Et voilà, en gros, c'est une construction culturelle.
Pascal,
voilà,
il a envie de parler, là, je sais.
Ouais.
Vas-y, on t'écoute.
Et oui, c'est-à-dire, faut tirer le micro, là. Ouais. Le micro pour deux.
Ça y est, tu l'as en face de toi, tu peux y aller.
Ça y est, je peux. Et oui, alors la science, que vient faire la science? Est-ce qu'on a besoin de la science pour savoir? Je ne crois pas forcément. Est-ce que la science peut effectivement servir à démontrer quelque chose?
La science sert à démontrer certaines théories, c'est ce dont parle Ariane, c'est-à-dire que...
À démontrer ou à déconstruire certaines théories.
Ça dépend comment tu l'utilises, parce que les outils scientifiques, suivant qui fait la thèse, c'est complètement déformé.
Ariane, c'est pour ça que je posais la question, c'est parce que Ariane est en train de répondre, voilà, c'est un petit peu dangereux quand même. Parce que à la science, on peut attribuer n'importe quelle interprétation, et avec la science, tu prouves absolument ce que tu veux. Enfin, dans l'ordre des idées, des pensées, tu fais dire à la science ce que tu as envie de dire.
Ben oui, bien sûr. Mais le gaz et le couteau, c'est super dangereux aussi.
Et oui, pourtant, c'est la question de l'outil, du tournevis que tu utilises pour construire ou pour poignarder ton voisin.
D'accord,
quoi.
Mais voilà.
Mais est-ce que pour vous, j'en reviens à la remarque qu'a faite Robert il y a quelques minutes, pour vous, associer homme à masculinité et femme à féminité, c'est absolument évident.
Alors, j'allais répondre par rapport justement à ce que disait Ghislain en dernier lieu. Quand il dit la définition homme-femme, en fait là on est sur le genre, hein, je commence à comprendre. il y a quand même une différence, c'est-à-dire que au départ, alors c'est vrai que maintenant ça change parce que les hommes sont plus fins, les femmes font plus de choses qu'elles ne faisaient pas avant. Disons, on a tendance à se rapprocher, mais enfin fut un temps, un type c'était 1m50 de haut sur 1m50 de large. Donc c'est un petit peu normal qu'il disons avait certains attributs dans les travaux, si tu veux. Il y avait une logique qui se faisait de par elle-même. Alors, est-ce que, effectivement, cette logique, est-ce que... ça, c'est une base, mais est-ce que cette logique, justement, n'est pas en évolution? Est-ce que ce n'est pas du tout vers cela que l'on tend, même bien au contraire? Moi, j'irais même beaucoup plus loin, quelque part. C'est que, si on se réfère à dans... quelques millénaires, admettons, ça va jusque-là, est-ce qu'on ne sera pas tout simplement hermaphrodite?
Peut-être. Oui, ou alors est-ce qu'il n'y aura pas...
Quelle est à la base de cela l'évolution? Bon, on parlait de science, etc., mais enfin, il y a bien une évolution de l'espèce, là, par contre, c'est incontestable.
On se le garde pour la fin, quand on va parler cyborg ou
quoi?
On va faire une petite pause musicale. Mais tu vas voir, la fin de l'émission, on va parler cyborg, et tu vas voir, on va y revenir.
Robert, tu veux juste te dire quelque chose?
Oui, juste sur une remarque d'Ariane au début, on n'est pas femme, on le devient. De mémoire, peut-être je peux me tromper, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui a dit ça, et elle exprimait ça d'abord il y a déjà 60, je sais plus combien de quelques dizaines d'années, mais c'était sur le plan surtout éducatif, c'était sur le plan
culturel.
C'est comment l'éducation, elle revenait sur l'idée de comment on devient femme, parce qu'on éduque les petites filles pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui et ce que devrait être ou doit être une femme, ouais. Gentille, cuisinière.
On leur assigne un certain nombre de rôles.
Mais ouais. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle dit ça.
Mais Maria, elle dit exactement la même chose.
Ben alors, oui.
On va écouter un peu de musique.
Ouais, on va directement passer à la pause musicale, peut-être, Isabelle, parce que là, on a déjà beaucoup parlé.
My pussy is fine. You could throw it in the air and call it sunshine. My pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy is outrageous. My pussy is contagious. Is outrageous. My pussy is contagious. Shine, pussy, shine. Viens, pussy, viens. Oui, pussy, oui. Ta, pussy, ta. Shine, pussy, shine. Viens, pussy, viens. Oui, pussy, oui. Ta, pussy, ta. My pussy is famous. My pussy is expensive. She's fabulous, she's famous. C'est magnifique, c'est fantastique. 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 My pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, pussy, my pussy, my pussy, my pussy, my pussy is outrageous. My pussy is contagious. Pussy is outrageous. My pussy is contagious. C'est magnifique, c'est fantastique. She's fabulous, she's famous. C'est magnifique, c'est fantastique. She's fabulous, she's famous. C'est magnifique, c'est fantastique. She's fabulous, she's famous. C'est magnifique, c'est fantastique. Pussy, my pussy, my pussy, my pussy. Pussy, my pussy, my pussy, my pussy. Pussy, my pussy, my pussy, my pussy. Pussy, my pussy, my pussy, my pussy.
Ah.
Alors,
mais non, on a le droit de rigoler, hein.
Bien.
On
ça
paye.
Fait du bien.
Ouais.
Ouais, c'était Amanda Lepore,
la plus
pussy.
Féminine de toutes.
Ouais.
La
plus cyborg de toutes.
Ouais, aussi.
My pussy is expensive.
Donc, faut expliquer peut-être à Pascal et Robert qui est Amanda Lepore.
Alors, Amanda Lepore, c'est une de nos chouchoutes, on va dire. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on aime bien. Elle en fait partie. C'est une grande amie d'un rappeur qui s'appelle Caswell. Et comment dire.
Un rappeur pas très traditionnel.
Un rappeur très gay. Qui s'appelle Caswell, un rappeur américain, voilà, et c'est sa grande copine, et on va dire que comment on peut la décrire ?
On peut dire qu'elle est allée très loin dans
la transformation,
le travail du corps.
Voilà, c'est-à-dire que tous les suppléments, tous les artifices qu'on peut mettre en place pour aller vers une féminité d'un niveau de performance super de course quand même.
Ouais,
c'est un peu pimp my body. C'est pas pimp my ride, c'est pimp my body.
Voilà. En gros, elle a des grosses lèvres, des seins énormes, une taille
plus grand que moi. Je tiens à le dire.
Elle est très blonde et hyper maquillée.
Robert est interloqué.
Et elle est fantastique.
Comme sa chatte.
Voilà. Puisque là, elle nous parlait donc de sa chatte My Pussy.
Bon, on continue. Prochain son. Prochain son, Ariane.
Donc, le prochain son, c'est déjà sur l'ouverture que proposent donc, les luttes queer dans la perspective des luttes féministes, puisque, comme Robert le rappelait, on était reparti de Simone de Beauvoir comme point d'origine. Et puis, pour rappeler aussi que tout ce qui a été développé aux États-Unis au niveau des gender studies n'est pas étranger à une école de pensée qui a pu commencer ici, même si ici, on a été un peu sous embargo, quoi. On n'a pas reçu ce qui avait été travaillé aux États-Unis pendant de très nombreuses années.
Ça vient, ça vient.
Et comment il s'appelle, ce son ? Parce que je crois qu'on a un peu mélangé des trucs, là, pour le technicien.
Mais je suis allée lui dire.
Tu es allée lui dire, mais tu es merveilleuse.
Tu crois que j'aurais fait ça à Isabelle, franchement ?
Mais je sais pas, moi, écoute.
Alors, on y va, on écoute.
Dans le mouvement post-féministe, en tout cas, c'est un grand chantier, c'est peut-être utopique, mais les utopies ont toujours fait bouger les choses et je pense que politiquement il y a des choses très intéressantes. Donc les deux pistes couvrent la pensée queer, c'est l'abolition du genre, une première piste, comme classificateur social, reconnu comme opérationnel et universel et fondé sur des bases naturalistes et essentialistes, à l'instar de ce qui s'est passé avec la notion de race. Elle a subi déjà ça, donc à un moment donné, la société organisée était organisée en catégories raciales, elles étaient immuables. De toute façon, de fait, les gens avaient la même illusion de savoir distinguer un noir d'un blanc, puisqu'il n'y avait jamais des couples mixtes, donc ça paraissait naturel et immuable. Et à partir du moment où la catégorie a été privée de sa base biologique, bon, on a pu l'enlever comme un principe opérationnel et organisateur de société. Ça n'a pas enlevé le racisme, mais ça a permis d'avancer. Donc ça, c'est une piste, l'abolition du genre. Et la deuxième, c'est la prolifération des genres, la fluidité des catégories, donc le fait d'ouvrir une multiplicité, une potentialité infinie, en fait. Les deux pistes sont politiques, les deux peuvent être fécondes. Ce qui est important, c'est qu'elles soient suivies collectivement par un mouvement suffisamment large pour être visible et avoir du poids. Donc, tout en étant utopiques, elles sont progressistes, elles visent l'égalité entre les êtres humains et leur épanouissement. Elles sont révolutionnaires, elles impliquent un changement radical de paradigme. Et en ça, je pense qu'on peut dire que le mouvement queer est un mouvement avant-gardiste.
Ouais.
Alors ça, c'est complexe, hein, Robert, j'ai vu ta tête.
En plus, on n'entendait pas très très bien en
plus,
en studio,
le son
n'est
pas
mais...
terrible.
T'as eu du mal à suivre. Alors,
Effectivement, elle évoque deux pistes sur les évolutions à venir.
Pour moi, elles sont complètement liées, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas...
Abolition ou prolifération.
Je pense que ce sera très difficile d'obtenir l'abolition du critère genre et dans l'état civil sexe en France. C'est le critère sexe qui paraît dans nos états civils, sur nos papiers d'identité, il y a écrit sexe pour l'instant. Et je pense que ce sera très difficile d'obtenir que ce critère-là disparaisse de nos papiers tant que la prolifération d'une diversité de genre n'aura pas été suffisamment marquante pour que, comme ce qui s'est passé avec le critère racial que c'était évoqué dans le son, c'est avec le métissage qu'on s'est rendu compte que c'était impossible de classifier les gens de cette façon-là, outre toutes les luttes qui ont fait qu'on a pu se rendre compte que c'était complètement... horrible de séparer et d'organiser la société suivant ces critères-là. Donc oui, je pense que sans prolifération, donc sans qu'on puisse se rendre compte que pour beaucoup de gens, ou pour une partie en tout cas sensible de la société, le critère homme-femme ne soit plus efficace pour identifier les gens et qu'il apparaisse comme oppressant pour beaucoup... sans ça, je pense qu'on n'obtiendra pas l'abolition du critère.
C'est une question que j'ai envie de poser à Pascal et Robert qui sont là. Est-ce que pour vous, effectivement, sur les papiers d'identité qu'on a tous, la notion de sexe vous semble quelque chose d'évident ou est-ce que c'est quelque chose dont, d'après vous, on pourrait se passer?
Pascal. Dans le rapport dans lequel c'est fait, c'est-à-dire bon, l'identité, c'est pour la police, hein, c'est pour s'identifier. Donc effectivement, il y a la taille, il y a la couleur des yeux, il y a enfin bon le sexe. Mais par contre, ce qui est anormal, c'est que bon, si quelqu'un naît homme, bon bah qu'il soit indiqué homme, oui, mais à partir du moment où il change de sexe, il faut que son nouveau sexe soit indiqué. Parce que comment il fait pour se présenter à certains endroits s'il est devenu femme pour prouver qu'il est l'homme du papier là.
C'est un problème très actuel.
Voilà. Hein. Voilà. Et ça de toute façon, il y a un moment où les autorités vont s'y heurter. De toute façon, les choses vont très vite. Il y a eu au départ les bases. Les bases des luttes, bon, c'est vrai, c'est très long, s'étale sur beaucoup de temps, mais là, il y a actuellement quand même des choses qui vont très très vite dans ce domaine. Je pense au niveau de la conscience quand même des gens. Tu peux demander maintenant, si tu prends tous les députés, bon, t'en auras peut-être 80% qui diront ne pas être défavorables aux homosexuels. Maintenant, de là à voter pour le mariage, c'est une autre histoire. Exactement. Et c'est là où il faut des, comme le dit Ariane, des états de fait, quoi, qui créent que ils ne puissent plus faire autrement.
Mmh. Et pourtant, il y a des pays où il n'y a pas obligatoirement une prolifération justement de gens qui ont un mélange dans leur genre, enfin qui se situent pas entre les hommes et les femmes, comme l'Argentine ou l'Australie, je crois, on avait parlé à l'époque.
Alors c'est l'Australie l'année dernière.
Et l'Argentine aussi. Alors, en Argentine, maintenant. Tu peux choisir, c'est-à-dire tu es plus obligé d'être homme ou femme. Tu peux ce que tu veux voir X, je crois.
Ariane pouvait... aussi. Il nous reste 4 minutes.
Écouter quand même. Il est très court le dernier son, Donc en Australie, en septembre 2011, a été ouverte la possibilité sur les passeports, sur présentation d'un certificat médical, mais pas forcément psychiatrique ou pas forcément vérification des organes génitaux visibles. Et donc sans stérilisation, bien sûr, éventuellement. Donc on peut faire mettre la lettre X en lieu et place de H ou F sur son passeport. Voilà.
Et sur le genre, parce que je ne sais pas si on va reprendre le micro, je renvoie au bouquin de Badinter, XY, ou de l'identité masculine, qui est pile poil dans ce dont on a parlé aujourd'hui.
Elisabeth, pas Robert, hein ?
Oui, Elisabeth.
Et si vous voulez sinon réentendre le cycle d'émissions, n'hésitez pas à nous contacter via les sites des radios ou notre page Facebook Salut les PD.
On écoute le dernier son quand même.
Il a l'air de quoi, le cyborg, chez Donna Haraway?
Ben, c'est un organisme qui est aussi un organisme cybernétique, une espèce d'hybride entre la machine et l'organique. Mais c'est avant tout, pour Donna Haraway, quelque chose qui va l'aider à faire reculer les frontières qui nous définissent en tant qu'être humain. Avec le cyborg, elle va recartographier les distinctions entre humain et animal, entre, par exemple, organisme et machine, entre hommes et femmes aussi. Et le cyborg va lui aider finalement à repenser notre réalité, à décoder d'une façon nouvelle notre culture et à sortir la biologie des idées toutes faites, comme on le disait tout à l'heure. Bref, son manifeste des cyborgs va permettre à Donna Haraway de tracer un nouvel horizon, un monde qui libérait autant les hommes que les femmes des oppositions féminin, masculin, nature, culture, etc. Elle cherche donc à nous affranchir de ces espèces d'oppositions binaires.
Bon, ça sera le mot de la fin pour cette émission.
L'avenir.
C'est ça, c'est un peu l'avenir, hein, l'avenir du cyborg. Je ne sais pas si on va aller jusque-là.
Mais ça revient un peu sur ce qu'évoquait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les évolutions techniques, à la fois on a accès à des outils qui permettent que les hommes et les femmes aient exactement les mêmes tâches, puisque les limites physiques sont repoussées par la machine et non pas par les capacités physiques des uns ou des autres. Et il y a aussi tous les suppléments techniques, biochimiques, etc., qu'on amène à nos propres corps, qui font que on est dans une humanité augmentée déjà aujourd'hui, et qui sait en quoi cela sera demain. Donc ce qui était considéré comme évident, naturel jusque-là, est complètement bouleversé par tous ces suppléments technologiques qu'on peut regarde nous qui portons des lunettes, c'est déjà incroyable.
Ça sera... Ouais, Robert, rapide, pour terminer.
Je ne sais pas les autres thèmes qui seront abordés là tout à l'heure en cours d'émission, mais je voulais juste justement rebondir sur le fait, si sur les papiers d'identité, et moi je suis tout à fait d'accord qu'il n'y ait pas écrit le sexe, mm-hmm. parce que on n'aborde pas les gens, on n'aborde pas l'humanité, on n'aborde pas l'individu à travers ni la couleur de sa peau, et donc il ne faut pas que ce soit écrit non plus, ni son sexe, il ne faut pas que ce soit écrit non plus, ni sa sexualité, ni sa religion, ni etc., etc. Parce que l'idée, enfin mon idée à moi, c'est qu'on aborde les gens en fonction de critères qui ne sont pas des critères discriminatoires ou éventuellement oppressifs. Et dans ce cadre-là, alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais en venant à votre émission et en m'invitant, en répondant à votre invitation, je m'étais dit, il faudra que tu parles de communautarisme, parce que c'est justement à partir du moment où on met une différence en valeur, qu'on se groupe autour de différences et qu'on oublie que ce qui est le plus important, c'est pas ce qui différencie les gens, mais c'est qu'il est réuni, qu'on crée du communautarisme et que, à partir de ce moment-là, je considère qu'on rentre dans de graves, c'est un grave danger, on rentre dans des problèmes qui vont arriver. Et dans ce cadre-là, je pense que le communautarisme religieux, ethnique, homosexuel, gay, etc., est aussi dangereux que les autres communautarismes. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de développer ça, mais c'est quelque chose que je voulais dire.
Bah, tu l'as
tu
dit.
Tu l'as dit. Mais je pense que...
non, mais moi, je ne suis pas loin de ton avis là-dessus. Hein. Donc après, effectivement, le tout, c'est de faire la part des choses entre...
Ce serait pas le cas, on ne les aurait pas invités.
entre... Enfin, tu l'as dit. Après, la reconnaissance de particularité, si ça va dans le sens de la réunion plutôt que, effectivement, du communautarisme, moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Donc,
mais ce n'est pas, ce qui se passe.
Si, en ce moment, c'est ce qui se passe avec, justement, le mariage, etc. On est tout à fait dans le... On gomme les différences.
On va en reparler. Parce que là,
on va faire 12 émissions au lieu de 4.
C'est ça. Ouais. On a grave débordé, mais c'est pas grave. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.